Chapitre 15. J'ai été en retard pour prendre mon service de nuit. Première fois de ma vie. Je n'ai pas pu faire autrement. Il avait fallu que je coure jusqu'à la station de métro. Ensuite que j'attende que la rame me ramène à Cambridge. Puis que je cours encore 7 minutes, le nez morveux et les yeux noyés de larmes, jusqu'à ma chambre de location. Madame Bill n'était pas chez elle, mais Tulip attendait sous la véranda. Je n'ai même pas réfléchi une seconde. J'ai pris dans mes bras le corps chaud, compact de cette chienne qui n'était pas ma chienne, et j'ai enfoui mon visage dans les replis lisses de son cou. Tulip a posé sa tête sur mon épaule. Je l'ai sentie soupirer, comme si elle-même se libérait d'une grande tension. Et nous sommes restés debout comme ça, moi la portant, elle la tête posée sur mon épaule. Et peut-être bien que j'ai encore pleuré un peu, qu'elle a léché les larmes sur mes joues, que je lui ai dit que je l'aimais, et qu'elle a battu de la queue pour me dire qu'elle m'aimait aussi. Je l'ai emportée dans ma chambre. Ça m'était égal maintenant que Frances nous découvre et me jette dehors. Il restait si peu de temps. Quelle importance désormais. Si peu de temps. Stan Miller. Les barreaux métalliques qui ressortaient de son corps massif. Le sang qui dégoulinait des coins de sa bouche. Les yeux sans regard qui ne cesseraient plus jamais de me fixer. J'ai planqué Tulip dans ma chambre avec une gamelle de croquettes et je me suis réfugiée au bout du couloir pour une longue douche bien chaude. Je me suis étrillée des pieds à la tête, puis shampoing, rinçage, après shampoing et rebelote. Est-ce que c'était mon imagination ou est-ce que je sentais encore l'odeur de la poudre sur mes doigts? J'ai cherché sur mon corps dénudé d'autres indices de mes activités nocturnes, du sang, des ecchymoses, n'importe quoi. Je me sentais intérieurement transformée, donc il aurait été logique que l'extérieur change aussi. Mais rien. Les gants de tir en cuir avaient fait leur office et protégé mes mains endommagées par la boxe quand j'avais dévalé en catastrophe l'échelle de secours. Mes gros vêtements d'hiver avaient fait leur office et préservé ma peau déjà couverte de cicatrices lorsque j'avais sauté et roulé à terre. Même ma cheville ne s'en ressentait presque plus, vite remise de sa légère foulure. Quand je suis sortie de la douche, j'ai essuyé la buée du miroir pour avoir confirmation de ce que je savais déjà. Je venais de tuer un homme, et strictement rien dans mon apparence n'avait changé. Charlène Rosaline Carter Grant, je vous présente Charlène Rosaline Carter Grant. Nièce aimante, amie fidèle, opératrice respectée et tueuse de sang-froid. J'ai été reprise de tremblement, alors je suis retournée sous la douche en mettant l'eau aussi bouillante que possible, mais sans réussir à vaincre le froid. 23h15. Tulip et moi prenions un taxi pour aller au travail. Avant-dernière permanence. 68h45. Je serrais contre moi la chienne qui n'était pas ma chienne.
Le bébé pleure.
Pardon ?
Le bébé pleure au bout du couloir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, rien ne marche, j'y arrive pas.
Un soupir tremblé.
J'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas. S'il vous plaît, madame, dites-moi comment faire pour que ça s'arrête.
Seule dans la lueur de ma rangée d'écran et d'une télé dont le son était coupé, je me suis passé les mains sur le visage pour m'obliger à me concentrer. Un bébé qui pleurait. Un jeune parent dépassé. Dans le top 10 des motifs d'appel. La procédure voulait qu'on s'assure de la santé physique du nouveau-né et de la santé mentale du jeune parent. Si l'un et l'autre allaient bien, rappeler au requérant que le 911 était fait pour les urgences, pas pour donner des conseils éducatifs, et raccrocher. Je n'ai pas raccroché. La permanence avait été relativement tranquille. Sur le scanner, ça jacassait à propos d'un meurtre pour lequel l'intervention était déjà en cours, et aucune autre urgence ne se présentait au portillon. Et je savais, comme beaucoup d'opérateurs qui attendent seuls dans la pénombre de centres d'appel à 2h du matin, que parfois les gens ont simplement besoin de parler. Alors j'ai laissé mon interlocutrice parler. J'ai appris le nom de sa petite fille de 9 mois, Moesha. J'ai appris que le père du bébé travaillait de nuit dans une entreprise de gardiennage, que Simone, 19 ans, espérait encore décrocher son diplôme d'études secondaires pour devenir un jour technicienne vétérinaire. Elle avait été ravie de tomber enceinte. Elle s'accrochait encore à des rêves de mariage, mais sa petite fille pleurait presque toutes les nuits et ça devenait dur. Surtout que le père du bébé se comportait comme un sale con, que Simone avait juste envie d'aller faire du shopping avec ses copines, mais qu'elle n'avait pas d'argent et que son copain lui avait dit qu'elle était trop grosse pour s'acheter des vêtements neufs. Pourquoi elle n'attendait pas d'avoir perdu tous les kilos pris pendant la grossesse? Et yo, c'était pour quand d'ailleurs? Simone parlait. Simone pleurait. Simone parlait encore. Je l'écoutais en caressant la tête de Tulipe. Simone a vidé son sac, l'appel s'est terminé. L'écran est redevenu vierge. Assise dans le noir, je lissais les oreilles tombantes de Tulipe. « Le bébé pleure », lui ai-je murmuré. Elle a levé les yeux vers moi. Au bout du couloir. Elle a posé la tête sur mes genoux. J'ai foiré Tulipe. Il y a des années et des années chez ma mère. Je n'ai pas su aider ce bébé. C'est pour ça que je ne pense plus à ma mère. Je ne veux pas me souvenir. Et ça n'a plus d'importance, pas vrai? Ce qui est fait est fait. Tulipe a flairé ma main. Je lui ai souri. J'ai caressé sa tête. C'est marrant. J'aurais passé toute une année à faire des plans, à me préparer, à élaborer une stratégie pour mon dernier combat. Et en fin de compte, je vais sans doute mourir comme n'importe qui, hanté par une liste de tâches inachevées. Tulipe a gémi en sourdine. Je me suis penchée pour mettre mes mains autour de son cou. « Je vais t'envoyer dans le Nord, lui ai-je promis. Tu vas aller vivre chez ma tante Nancy et devenir une chienne de maison d'hôte. Les montagnes y sont magnifiques, il y a plein de chemins pour courir, des rivières pour nager et des écureuils à pourchasser. Tu te plairas là-haut. Moi, en tout cas, je m'y suis plus. Je l'ai serré plus fort. « Souviens-toi de moi, lui ai-je murmuré. Tulipe a poussé un gros soupir. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. La porte s'est ouverte peu de temps après. Une silhouette noire s'est profilée à contre-jour dans la lumière du couloir et je me suis levée d'un bond. Par réflexe, je me suis mise en garde tandis que mon fauteuil de bureau valsait à l'autre bout de la petite pièce. L'agent McKerrett a appuyé sur l'interrupteur. « Tu travailles toujours dans le noir ? » m'a-t-il demandé d'une voix bourrue. Il était en tenue, le ceinturon à la taille. J'avais consulté le tableau de service en prenant mon poste et je savais donc qu'il travaillait cette nuit. Je savais aussi que, plus tôt dans la soirée, il avait été appelé en renfort avec une dizaine de collègues pour une affaire d'homicide dans les logements sociaux de Red Groves. La victime était un homme noir, empalé sur l'escalier de secours effondré d'un immeuble d'habitation. Un beau bordel, d'après les bavardages radio. Les techniciens de scène de crime avaient dû finir par y aller au chalumeau pour sectionner les tiges métalliques plantées dans le corps de Stan Miller. Ensuite, le légiste avait emporté le corps encore embrouché comme un poulet dans une ambulance gros volume dont la ville venait de faire l'acquisition pour le transport des patients également de gros volume. J'ai relâché mes bras le long de mon corps, fait jouer mes doigts. J'aurais voulu m'éloigner davantage, mais j'étais coincée par le bureau. Le standard prévu pour une personne se réduisait au strict nécessaire. Un carré de 2 mètres sur 2. Les toilettes pour handicapés du commissariat étaient plus grandes. À côté de moi, Tulipe était contente. Elle a trottiné vers l'agent McKerrett et s'est assise à ses pieds en lui présentant sa tête. Il s'est penché pour lui gratouiller le cou, puis dans un geste qui l'a sans doute surpris autant que moi, il s'est agenouillé pour la serrer dans ses bras. Elle lui a léché la joue. « Au moins une de vous deux qui m'aime bien », a-t-il remarqué. Sous la lumière vive des néons, je voyais ses traits creusés. Le prix à payer quand on travaille sur des scènes de crime. Rêverait-il du cadavre de Stan Miller dans la matinée ? Aurait-il été très surpris d'apprendre que je ferais moi aussi ce même cauchemar ? Rude soirée, ai-je observé, toujours debout à côté de mon bureau. Pas d'autre intervention, c'est déjà ça. Plutôt calme. Logique, tous nos agents s'activent sur la scène de Red Groves, alors rien d'autre ne se présente. Comment ça se passe à Red Groves ? Ai-je dit en regardant mon écran comme si j'étais censé le surveiller. Scène sécurisée, cadavre emballé et étiqueté, voisin furax et affolé. « La routine. »« Des témoins ? » ai-je demandé, l'air de rien. « Seulement 3 ou 4 dizaines. »« Sans blague ?» L'agent McKerrett a poussé un bref soupir d'agacement et s'est relevé. « Le truc, c'est qu'on avait tellement de badauds qui nous donnaient tellement de versions différentes qu'on n'a strictement aucune certitude. La moitié prétend que la victime était en train d'engueuler sa femme et qu'il devait la poursuivre dans l'escalier de secours quand ça s'est effondré. D'autres nous jurent qu'il y a eu une fusillade digne d'Hockey Corral. » Sans doute des trafiquants de drogue, voire la mafia russe.
La mafia russe ?
Peu de chance, mais c'est clair qu'il y a eu des coups de feu dans l'appartement. Les murs sont criblés d'impacts de balles. On cherche encore la famille. Une femme, 2 gosses. Un voisin les a vus partir en début de soirée. J'espère pour eux que c'est vrai.
Oh.
Pas chouette comme mort, a dit Tom en se balançant sur ses talons. Un truc, mais t'as jamais vu ça. un plongeon de 4 étages pour s'écraser sur un lit de pieux métallique. En finissant sa phrase, il a dû voir la tête que je faisais. Il s'est repris pour ajouter précipitamment « Désolé, je ne voulais pas... » Les risques du métier. Les policiers oublient parfois que tout le monde ne passe pas sa vie à voir des cadavres.
« Ne t'en fais pas, » ai-je répondu encore sous le choc. « J'en entends aussi de belles. »
« Pas pareil, c'est moins dur d'entendre que de voir. »
« Tu crois ça ?»«
Et si ça laissait simplement plus de place à l'imagination ? Surtout quand je ne sais pas comment l'histoire se termine. Des cris, des hurlements, une situation critique et bing, appel suivant.
Enfin, bon. »
L'agent McKerrett a lentement hoché la tête, comme s'il envisageait pour la première fois ce qu'était la vie d'un opérateur. « Tu as fait un peu de ménage ? » m'a-t-il brusquement demandé. J'ai dû réfléchir un instant.
« Pas encore. »
« Frapper quelqu'un ? » ?»«
Pas encore. »
« Petite journée pour Charlène Grant. »
« Charlène Rosaline Carter Grant, »
ai-je corrigé par réflexe. « Ce n'est pas ce qui figure sur ton permis de conduire ?»
Relevant le menton, je l'ai regardé sans ciller. Pas de place sur le formulaire pour écrire à la fois mes deuxième et troisième prénoms, alors j'ai choisi de n'écrire ni l'un ni l'autre.
« Pourquoi tous ces prénoms, d'ailleurs ?»«
Je ne sais pas. »«
Tradition familiale ?»«
Possible. »«
Tu n'as jamais demandé à tes parents ?»«
Je ne saurais pas où les trouver si je voulais le leur demander. » ai-je répondu avec raideur. Ça a paru lui couper le sifflet. Il a encore hoché la tête sans cesser de m'observer. Nous dansions. Nous tournions l'un autour de l'autre. Mais je n'arrivais pas à savoir si nous étions un couple sur une piste de danse ou des adversaires sur un ring.
« J'ai tapé ton nom dans Google », a-t-il dit.
« Qu'est-ce que tu as trouvé ?»«
Beaucoup de Charlène Grant en circulation. »
« C'est peut-être pour ça que j'ai 3 prénoms, pour me différencier. »
Tu n'as pas 3 prénoms.
Mais si.
Pas sur ton acte de naissance.
Tu as consulté mon acte de naissance?
Eh, quand Google ne donne rien, qu'est-ce qu'il reste comme solution?
Je ne savais plus quoi dire. Je le regardais sans mot dire.
Tulip, assise entre nous, a gémi doucement.
Qu'est-ce que tu veux?
Ai-je demandé. L'arrière de mes jambes était toujours collé contre le bureau. D'un seul coup, ça m'a ennuyée. Je me suis forcée à faire un pas en avant. Ne plus reculer.
Prendre possession de l'espace. S'emparer du contrôle de la situation.
Ton adresse mail?
Je n'en ai pas.
Une page Facebook? Un compte Twitter? MySpace?
Je n'ai pas d'ordinateur.
Un smartphone?
Je n'ai ni ordinateur, ni smartphone, ni iPad, ni iPod, ni tablette, ni même un lecteur de DVD.
Déconnecté.
Économe.
Si je veux aller sur Internet, je vais à la bibliothèque. Tant que je suis là-bas, je peux aussi emprunter un bon livre. Qu'est-ce que tu fais le 21 ?
Pardon ?
Le 21, samedi midi. Qu'est-ce que tu fais ?
Pourquoi ?
Ma voix était trop montée dans les aigus. Mes poings baissés étaient serrés. Je ne sais pas s'il a remarqué, mais Tulip s'est glissée vers moi, s'est collée à mes jambes. Tu as décliné le café, refusé le dîner, ça laisse le déjeuner.
Le déjeuner ?
Samedi, le 21. 1h de l'après-midi, au Café Fleury du Langham Hotel. Buffet chocolat à volonté, c'est ma meilleure offre. Qu'est-ce que tu en dis ?
Je ne savais pas quoi dire. Aucune importance. Parce qu'à côté de moi, l'écran s'est illuminé et que mon casque s'est mis à carillonner. Littéralement sauvé par le gong.
J'ai attrapé mon casque et je me suis retournée vers l'écran Annie Ali. Tu ne pourras pas me fuir toute ta vie, a murmuré Tom derrière moi.
J'ai immédiatement fait volte-face, mais il était déjà parti, après avoir éteint la lumière pour me replonger dans le noir.